Par un hasard curieux, un jour je fis du pain. Étonnant, et vous m'en direz tant. L'histoire se passa à Tonbukta, où personne ne l'ouvrait. Le capitaine était dans sa mauvaise assiette, les grues caquetaient sur les toits, et le barman du saloon hôtel était ivre comme d'habitude. Le doc avait fini sa dope, c'était l'époque où il venait de perdre sa fille et Leda, qu'un beau sbire avait enlevé pour multifille. « Sais-tu faire la chenille ?»« Bien sûr, » répondit le doc, et il fit la chenille. C'était sa spécialité. Depuis des mois, ils étaient isolés et sans pain, car les Ouloulous s'étaient révoltés de douleur. La brigade tenait la main haute sur les collines de Sassa, tandis que le général Commissa vendait les plaines de Handi par téléphone aux compagnies qui ramassaient en grosses galettes les diamants et la directite. Les Ouloulous, qu'on ne pouvait distinguer des Oulala tant ils souffraient pareillement, s'étaient infiltrés dans les usines, les Oulala semaient la discorde dans les camps. Enfin bref, le Bouctagone vira à gauche, la Marfolia taxait la droite et tout le Bataclan s'arrachait les frites à prix d'or. Margarine de Cheval voyait son cours monter au vertige et tous les gros porteurs en engraissaient tant et plus les pattes qui glissaient aux petits les désirs de conspirer contre Mabotou, qui était soutenu Ouloulou, pour faire mal et vite et peindre simplement. On en vint ainsi à réquisitionner toutes les farines pour bloquer l'exploitation de Direxide. Et les jours s'allongèrent démesurément. On cria famine de pain, on regretta farine. Après avoir fait la chenille, le doc but quelque chose et proposa au cap d'aller au bar. Le vieux doc marchait difficilement, attaqué qu'il avait été par la dent creuse qui lui avait démoli un tibia dans le Genji lors d'une chasse avec l'émir Marcel, le vieux routier au nez fin. Bref. Ils entrèrent au bar du saloon, personne. Le flot des anciennes beuveries s'était perdu dans la ville, qui vivait à l'heure discrète, où chacun cheminait comme le chien errant, rasant les murs et sautant sur Pierre comme sur Paul pour lui faire le paletot ou la peau. « Pas pour autant, Riri, aujourd'hui. De la perte toute pourrite, mon vieux. M'appelle pas mon fieu. Bon, ça va qu'à l'endos. » Et pan, il le plantait jusqu'à l'os. Ainsi, cadavres jonchaient les rues et maladies couraient les fosses. La faucheuse errait nuit et jour et les morts tombaient par chariot. Oh, ce n'était pas beau, ce n'était pas l'impôt, c'était désolation et charrette à bras. À bras, à bras, à bras, des pommes cadavres d'hommes en jus, enfer, putréfaction, et jamais navigable, bouillie de chair et boue. À bout, à bout, à bout, chariot et roues roulant sur le charnier, et les os, friard. Friable, les os, friable. Quel lyrisme, mon cher. Vous l'égalez plus grand. Comme il se doit, Roger, car il faut alterner après l'humour, c'est le lyrisme qui touche au cœur, puis remettant le cœur en son droit chemin, nous poursuivons par le réalisme qui arrive bon train dans notre histoire de pain, ici pour digresser et nous faire du repos dans l'aventure extravagante. Ce jour-là, donc. Comme c'est curieux, permettez, mais je m'étonne que ce soit précisément ce jour-ci. Et pourtant, il en est bien ainsi, car je m'en souviens toute ma vie. Ce jour, donc, se trouvait stationné un de ces chariots gorgés de morts. J'avais dû moi-même l'éviter, comme l'évitèrent ensuite Doc et Cap, en jurant, il est vrai, de ce qu'il encombrait l'entrée du bar. Une tête dépassait des ridelles et offrait son sourire mortel à celui qui passait. Le Doc la contourna, mais le capitaine ne la vit pas, car il marchait à vive allure, ce qui veut dire rapidement. Alors, avec violence, il s'y heurta et s'en prit plein le fouet. « Mordel de Berthe !» s'écria-t-il. En effet, nul ne fut mieux renversé que Berthe par Angilbert, dont elle eut deux fils à la barbe de Charlemagne, son père qui l'adorait, et surtout ses pieds, à ce qu'il confiait à Roland, qui devait mourir sans prompt renfort. Bref, Carolus Magnus mit les siens dans le plat de l'Europe, entretenant haine et ressentiment chez les peuples divers, si bien que l'Allemand, s'en remantevant, nomma son canon Bertha. Et il était si gros qu'il dut l'adjectiver de « Dick », ce qui, passant la frontière alsacique, donna grosse, alors que Berthe n'était, après deux accouchements, qu'épaisse au dire des chroniques et du chant grégorique alléluiatique. C'est curieux comme l'histoire engendre la légende et le récit. Ne trouvez-vous pas? En effet, je partais seul et sans secours, lorsque, tonnant dans son corps, je vis Roland, seul avec Durandal. Alors me levant impromptu, je courus me mettre à ses genoux. Il me bénit et dit « Va-t'en trouver père et dis-lui de pardonner à Berthe. « Mais vous courez à votre perte, mon prince. Du Saint-Razin, je ne crains pas la pince. » Et ce furent ses derniers mots, et ce sont les nôtres sur cette tragique affaire, qui, loin d'alourdir le récit, l'allège au contraire de l'ancrer dans le passé, comme l'architecte de Bourboulbis s'en trouva conforté et profond de sentir grand-papa derrière son ouvrage. Le capitaine, donc, fut renversé comme Berthe. il crut à une attaque et cria « À moi !» Puis se rua sur la tête qui roula, la colla au sol et lui asséna un tel coup de poing qu'il fit gicler le sang et tripe de tête comme le crachat. Quelques cheveux et un peu de chair restèrent collés à sa main qu'il n'essuya que négligemment. Le doc l'avait attendu. « Vous n'y allez pas de main morte. De main quoi ?»« Avec la force du poignet, dis-je. Quoi ? Je force mon robinet. Diable, doc, je rêve ou vous me cherchez mes baskets ?» Que non, Cap, j'admire votre force et votre sens de l'action radicale. Je disais que vous n'y alliez pas de main morte et que... Est-ce que cela veut dire que je me moque ? Certes, non, j'admire la promptitude et l'efficacité, voilà tout. Sans rancune, Doc, je m'emporte avec la cuillère de moutarde. Et ils entrèrent. Ah, vous voilà. Je m'ennuie comme pas un, s'écria le garçon qui s'ennuyait. Redondant, mon cher, poil aux dents. Et ils buvèrent, ils buvirent, ils burent du radada. C'est tout ce qu'il y avait. Ensuite, ils mangèrent un bout. Ils n'avaient rien d'autre, hormis navet. Ils l'accompagnèrent d'une sorte de sauce, un peu de radada et du lichen haché, 3 gousses de salapra et un peu de carnic. Et puis, subitement, le garçon se mit à bramer. « Je voudrais du pain, du vrai pain !» Il pleura comme une lope, pensa le doc, et le cap le confirma. « Ok, doc. » Tous deux le regardèrent avec mépris, se disant bien que c'était la dernière fois qu'il revenait là. Que l'autre était timbré, et que la situation ne s'améliorait pas, et qu'il s'agirait peut-être de déguerpir. Ils s'apprêtèrent donc à prendre la tangente lorsque le garçon se précipita sur la main du cap qu'il se mit à lécher. « Mais tu fous, dégueulasse ! Oun, oun, oun. Lâche-moi ! Comme là, oun, full gas, oun, le goût !» Alors le cap lui reprit sa main et l'observa. Dans un premier temps, il ne vit rien, puis il distingua aux jointures des traces blanches. Il regarda de plus près, en préleva un peu sur son doigt, et le présenta au doc. « Qu'en pensez-vous ? Nom de Dieu ! Quoi, nom de Dieu ? De la farine, mon cher, de la farine ! Nom de Dieu, venez, radinez ! Dînez, mais j'ai pas !» Mais le cap l'attrapait par son vêtement et le tirait en arrière, si bien qu'il n'en revenait pas. « N'as-tu pas un moyen convenable de me prendre ? N'ai-je pas d'oreille ? » s'écria-t-il, paraphrasant Zénon. Le cap, peu apte à saisir le sens d'une pensée si profonde, voulut se saisir d'Édith. Le doc alors éloigna son chou pour protéger ses feuilles et hop là, hop là, hop là, promis à sa manière de suivre autre. Ils sortirent donc, les garçons le rejoignirent, ils tirèrent les morts qu'il y avait sur le dessus pour atteindre le dessous. Oh, comme cela va de soi! Les morts étaient si pourris que les jambes lâchaient les troncs. Les têtes faisaient de même, les bras s'accrochaient encore mollement, comme limaces, enfer et damnation, c'était putréfaction. Tout pendait en loques, et lorsque ça tombait sur le sol, émettait le bruit triste du sac d'eau « Platch !» Modèle 90, miserere nobis, embrassons-nous. Enfin, ils parvinrent à dégager les corps qui recouvraient, aux surprises, un sac dans lequel aussitôt ils fourrèrent leurs mains. C'était de la farine, miracle et congratulations. Ils s'embrassèrent avec leurs bras tout en suçant avidement leurs doigts. Puis soudain, réjouis par une idée qu'ils eurent en même temps, ils empoignèrent le sac et l'emportèrent aux cuisines, où je me trouvais en tant que cuisinier de 3e classe, pour le bien comme pour le mal, non pas engagé, mais obligé d'accomplir mon devoir, ce que je ne regrette pas, ayant appris ainsi beaucoup de choses. Peut-on savoir lesquelles ? Je vous l'ai dit à l'oreille. Malheureusement, nous ne pouvons rester pour apprendre ce qu'il a pris, tour et sac dans l'infanterie et les cuisines. Il nous faut poursuivre, car comme on dit, ce qui digresse finit par déborder. J'étais donc dans les cuisines à tourner en rond autour de 2 paquets de navets qu'il y avait, lorsqu'ils arrivèrent, les yeux exorbités et inquiets. « Tu sais faire du pain ? Tu sais ?» Et tous 3 déjà, ils m'entouraient nerveusement. « Doucement, doucement, que je leur ai dit, faut d'abord voir si vous avez de la farine. » Ils me montrèrent le sac. J'y plongeai la main et je m'en souviens toute la vie. J'eus le frisson, non pas de l'infini du monde, pour revenir à notre thème, mais au contraire de son fini, puisque j'y trouvais du sang et de la putréfaction agglomérée à la farine. Bon sang, je crus devenir Maboul. Je voulus appeler Abdallah, qui était mon aide, ainsi que Taziev, qui était le sien. Abdal Taziev, déboule, déboulé, criai-je, mais personne ne se montra devant les 3 lascars assoiffés, si je puis dire, de pain. Je ne mange pas de ce pain-là, leur dis-je. Quoi ? Me répondit-il en me menaçant de leur coutelas. Alors je sortis une de mes mains du sac et je leur montrai un morceau de fesse parfaitement conservé. « Miam, miam !» salivèrent-ils devant moi, et je dois dire que je faillis en dire autant tant la fesse était appétissante. Bref, ils étaient pressés. Ils avaient faim de pain, et j'avais faim aussi de belles tranches de mie. On se décida, On ne prit pas trop soin au tri de la farine, et ce soir-là, on fit un énorme pain de 3 livres. Plus tard, en mâchant lentement la mie, dont nous avions perdu le goût, on imagina celle qui y laissa la fesse magnifique, dont de petits morceaux restaient entre nos dents. Voilà, n'est-ce pas extraordinaire, aussi bien qu'extravagant ? Aussi extravagant, en effet, que de manger des fraises avec les doigts, lorsque l'on porte une robe neuve, ce que rapporte Catherine Mansfield et qui choqua le roi. Shocking, je le fus pourtant. Je continuai à faire du pain jusqu'au jour où Claudine me quitta pour cause de farine. Aujourd'hui, je n'ai plus la force. Je n'ai plus de mie et je cherche un robot pétrin. Ou une Marie pour être votre amie. En connaissez-vous une ? N'en parlez à personne, mais il faut de la thune. Ah, oh, pauvre de moi qui n'en ai pas, arnaque et peste brune.